Chapitre 3. Dépêche. Dépêche à Monsieur le Comte Portalis. Rome, 17 février 1829. Monsieur le Comte, j'ignore s'il plaira au roi d'envoyer un ambassadeur extraordinaire à Rome, ou s'il lui conviendra de m'accréditer auprès du Sacré Collège. Dans ce dernier cas, j'aurai l'honneur de vous faire observer que j'allouais à Monsieur le Duc de Laval, pour frais de service extraordinaire en pareille circonstance en 1823, une somme qui s'élevait, autant que j'en puis souvenir, de 40 à 50 000 francs. L'ambassadeur d'Autriche, Monsieur le Comte d'Aponie, reçut d'abord de sa cour une somme de 36 000 francs pour les premiers besoins, un supplément de 7 200 francs par mois à son traitement ordinaire pendant la durée du conclave, et, pour frais de cadeaux, chancellerie, etc., 10 000 francs. Je n'ai point, Monsieur le Comte, la prétention de lutter de magnificence avec Monsieur l'ambassadeur d'Autriche, comme le fit Monsieur le Duc de Laval. Je ne louerai ni chevaux, ni voitures, ni livrées pour éblouir la populace de Rome. Le roi de France est un assez grand seigneur pour payer la pompe de ses ambassadeurs, s'il en veut une. Magnificence d'emprunt, c'est misère. J'irai donc modestement au conclave avec mes gens et mes voitures ordinaires. Reste seulement à savoir si Sa Majesté ne pensera pas que pendant la durée du conclave, je serai obligé à une représentation à laquelle mon traitement ordinaire ne pourra suffire. Je ne demande rien. Je soumets simplement une question à votre jugement et à la décision royale. J'ai l'honneur, etc. Dépêche à Monsieur le Comte Portalis. Rome, ce 19 février 1829. Monsieur le Comte, j'ai eu l'honneur d'être présenté hier au Sacré Collège et de prononcer le petit discours dont je vous ai d'avance envoyé copie dans ma dépêche numéro 17, partie mardi, 17 de ce mois, par un courrier extraordinaire. J'ai été écouté avec des marques de satisfaction du meilleur augure, et le cardinal doyen, le vénérable Delia Somaglia, m'a répondu dans les termes les plus affectueux pour le roi et pour la France. Vous ayant tout mandé dans ma dernière dépêche, je n'ai absolument rien de nouveau à vous dire aujourd'hui, sinon que le cardinal Bussy est arrivé hier de Bénévent. On attend aujourd'hui les cardinaux Albani, Macchi et Oppizoni. Les membres du Sacré Collège s'enfermeront au palais Quirinal lundi soir, 23 de ce mois. 10 jours s'écouleront ensuite pour attendre les cardinaux étrangers, après quoi les opérations sérieuses du conclave commenceront. Et si l'on s'entendait tout d'abord, le pape pourrait être élu dans la première semaine de carême. J'attends, monsieur le comte, les ordres du roi. Je suppose que vous m'avez expédié un courrier après l'arrivée de monsieur de Montebello à Paris. Il est urgent que je reçoive ou l'annonce d'un ambassadeur extraordinaire ou mes nouvelles lettres de créance avec les instructions du gouvernement. Les 5 cardinaux français viendront-ils? Politiquement parlant, leur présence est ici fort peu nécessaire. J'ai écrit à Monseigneur le cardinal de Latil pour lui offrir mes services, dans le cas où il se déterminerait à venir. J'ai l'honneur, etc. Post-scriptum. Je joins ici la copie d'une lettre que m'a écrite Monsieur le Comte de Funchal. Je n'ai point répondu par écrit à cet ambassadeur, je suis seulement allé causer avec lui. À Madame Récamier. Rome, lundi 23 février 1829. Hier ont fini les obsèques du pape. La pyramide de papier et les 4 candélabres étaient assez beaux, parce qu'ils étaient d'une proportion immense et atteignaient à la corniche de l'église. Le dernier Dies Irae était admirable. Il est composé par un homme inconnu qui appartient à la chapelle du pape et qui me semble avoir un génie d'une toute autre espèce que Rossini. Aujourd'hui, nous passons de la tristesse à la joie. Nous chantons le Veni Creator pour l'ouverture du conclave. Puis nous irons voir chaque soir si les scrutins sont brûlés, si la fumée sort d'un certain poêle. Le jour où il n'y aura pas de fumée, le pape sera nommé, et j'irai vous retrouver. Voilà tout le fond de mon affaire. Le discours du roi d'Angleterre est bien insolent pour la France. Quelle déplorable expédition que cette expédition de Morée. Commence-t-on enfin à le sentir ? Le général Guilleminot m'a écrit une lettre à ce sujet qui me fait rire. Il n'a pu m'écrire ainsi que parce qu'il me présumait ministre. 25 février. La mort est ici. Torlonia est parti hier au soir, après 2 jours de maladie. Je l'ai vu tout peinturé sur son lit funèbre, l'épée au côté. Il prêtait sur gage, mais quel gage ! Sur des antiques, sur des tableaux renfermés pêle-mêle dans un vieux palais poudreux. Ce n'est pas là le magasin où l'avare serrait un luth de Bologne garni de toutes ses cordes, ou peu s'en faut, la peau d'un lézard de 3 pieds et le lit de 4 pieds à bandes de points de Hongrie. On ne voit que des défunts que l'on promène habillés dans les rues. Il en passe un régulièrement sous mes fenêtres quand nous nous mettons à table pour dîner. Au surplus, tout annonce la séparation du printemps. On commence à se disperser, on part pour Naples, on reviendra un moment pour la Semaine Sainte, et puis on se quittera pour toujours. L'année prochaine, ce seront d'autres voyageurs, d'autres visages, une autre société. Il y a quelque chose de triste dans cette course sur des ruines. Les Romains sont comme les débris de leur ville. Le monde passe à leurs pieds. Je me figure ces personnes, rentrant dans leurs familles, dans les diverses contrées de l'Europe, ces jeunes misses retournant au milieu de leur brouillard. Si par hasard, dans 30 ans d'ici, quelqu'une d'entre elles est ramenée en Italie, qui se souviendra de l'avoir vue dans les palais dont les maîtres ne seront plus ? Saint-Pierre et le Colisée, voilà tout ce qu'elle-même reconnaîtrait. Chapitre 4. À Monsieur le Comte Portalis, à Madame Récamier. Dépêche à Monsieur le Comte Portalis. Rome, ce 3 mars 1829. Monsieur le Comte. Mon premier courrier étant arrivé à Lyon le 14 du mois dernier à 9 heures du soir, vous avez pu apprendre le 15 au matin, par le télégraphe, la mort du pape. Nous sommes aujourd'hui au 3 de mars. Et je suis encore sans instruction et sans réponse officielle. Les journaux ont annoncé le départ de 2 ou 3 cardinaux. J'avais écrit à Paris à M. le cardinal de Latil pour mettre à sa disposition le palais de l'ambassade. Je viens de lui écrire encore, à divers points de sa route, pour lui renouveler mes offres. Je suis fâché d'être obligé de vous dire, Monsieur le Comte, que je remarque ici de petites intrigues pour éloigner nos cardinaux de l'ambassade, pour les loger là où ils pourraient être placés plus à la portée des influences que l'on espère exercer sur eux. En ce qui me concerne, cela m'est fort indifférent. Je rendrai à messieurs les cardinaux tous les services qui dépendront de moi. S'ils m'interrogent sur des choses qu'il sera bon de connaître, je leur dirai ce que je sais. Si vous me transmettez, pour eux, les ordres du roi, je leur en ferai part. Mais s'ils arrivaient ici dans un esprit hostile, au vu du gouvernement de Sa Majesté, si l'on s'apercevait qu'il ne marche pas d'accord avec l'ambassadeur du roi, s'il tenait un langage contraire au mien, s'ils allaient jusqu'à donner leur voix dans le conclave à quelque homme exagéré, s'ils étaient même divisés entre eux, rien ne serait plus funeste. Mieux vaudrait, pour le service du roi, que je donnasse à l'instant ma démission que d'offrir ce spectacle public de nos discordes. L'Autriche et l'Espagne ont, par rapport à leur clergé, une conduite qui ne laisse rien à l'intrigue. Tout prêtre, tout cardinal ou évêque autrichien ou espagnol ne peut avoir pour agent et pour correspondant à Rome que l'ambassadeur même de sa cour. Celui-ci a le droit d'écarter à l'instant de Rome tout ecclésiastique de sa nation qui lui ferait obstacle. J'espère, monsieur le comte, qu'aucune division n'aura lieu, que messieurs les cardinaux auront l'ordre formel de se soumettre aux instructions que je ne tarderai pas à recevoir de vous, que je saurai celui d'entre eux qui sera chargé d'exercer l'exclusion en cas de besoin, et quelle tête cette exclusion doit frapper. Il est bien nécessaire de se tenir en garde. Les derniers scrutins ont annoncé le réveil d'un parti. Ce parti, qui a donné de 20 à 21 voix aux cardinaux Delia Marmora et Pedicini forme ce qu'on appelle ici la faction de Sardaigne. Les autres cardinaux effrayés veulent porter tout leur suffrage sur Oppizoni, homme ferme et modéré à la fois. Quoique autrichien, c'est-à-dire milanais, il a tenu tête à l'Autriche, à Bologne. Ce serait un excellent choix. Les voix des cardinaux français pourraient, en se fixant sur l'un ou l'autre candidat, décider l'élection. À tort ou à raison, on croit ces cardinaux ennemis du système actuel du gouvernement du roi, et la faction de Sardaigne compte sur eux. J'ai l'honneur, etc. À Madame Récamier, Rome, le 3 mars 1829. Vous me surprenez sur l'histoire de ma fouille. Je ne me souvenais pas de vous avoir écrit rien de si bien à ce propos. Je suis, comme vous le pensez, fortement occupée. Laissée sans direction et sans instruction, je suis obligée de prendre tout sur moi. Je crois cependant que je puis vous promettre un pape modéré et éclairé. Dieu veuille seulement qu'il soit fait à l'expiration de l'intérim du ministère de M. Portalis. 4 mars. Hier, mercredi des cendres, j'étais à genoux, seul, dans cette église de Santa Croce, appuyé sur les murailles de Rome, près de la porte de Naples. J'entendais le chant monotone et lugubre des religieux dans l'intérieur de cette solitude. J'aurais voulu être aussi sous un froc, chantant parmi ces débris. Quel lieu pour mettre en paix l'ambition et contempler les vanités de la terre. Je ne vous parle pas de ma santé, parce que cela est extrêmement ennuyeux. Tandis que je souffre, on me dit que M. de La Ferronnays se guérit. Il fait des courses à cheval, et sa convalescence passe dans le pays pour un miracle. Dieu veuille qu'il en soit ainsi, et qu'il reprenne le portefeuille au bout de l'intérim. Que de questions cela trancherait pour moi. Dépêche à M. le comte Portalis. Jeudi, ce 15 mars 1829. Monsieur le comte, j'ai eu l'honneur de vous instruire de l'arrivée successive de messieurs les cardinaux français. 3 d'entre eux, messieurs de Latil, de Lafare et de Croy, m'ont fait l'honneur de descendre chez moi. Le premier est entré au conclave jeudi soir 12 avec monsieur le cardinal Isoard. Les 2 autres s'y sont renfermés vendredi soir 13. Je leur ai fait part de tout ce que je savais. Je leur ai communiqué des notes importantes sur la minorité et la majorité du conclave, sur les sentiments dont les différents partis sont animés. Nous sommes convenus qu'ils porteraient les candidats dont je vous ai parlé, savoir les cardinaux Capelliari, Oppizoni, Benvenuti, Zurla, Castiglioni, enfin Pacca et De Gregorio. Qu'il repousserait les cardinaux de la faction sarde, Pedicini, Giustiniani, Galeffi et Cristaldi. J'espère que cette bonne intelligence entre les ambassadeurs et les cardinaux aura le meilleur effet. Du moins, n'aurais-je rien à me reprocher si des passions ou des intérêts venaient à tromper mes espérances. J'ai découvert, monsieur le comte, de méprisables et dangereuses intrigues entretenues de Paris à Rome par le canal de M. le nonce Lambruschini. Il ne s'agissait rien de moins que de faire lire en plein conclave la copie de prétendues instructions secrètes divisées en plusieurs articles et données, assurait-on imprudemment, à M. le cardinal de Latil. La majorité du conclave s'est prononcée fortement contre de pareilles machinations. Elle aurait voulu qu'on écrivît au nonce de rompre toute espèce de relation avec ces hommes de discorde, qui, en troublant la France, finiraient par rendre la religion catholique odieuse à tous. Je fais, monsieur le comte, un recueil de ces révélations authentiques, et je vous l'enverrai après la nomination du pape. Cela vaudra mieux que toutes les dépêches du monde. Le roi apprendra à connaître ses amis et ses ennemis, et le gouvernement pourra s'appuyer sur des faits propres à le diriger dans sa marche. Votre dépêche numéro 14 me donna avis des empiétements que le nonce de sa sainteté a voulu renouveler en France au sujet de la mort de Léon XII. La même chose était déjà arrivée lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères à la mort de Pie VII. Heureusement, on a toujours les moyens de se défendre contre ces attaques publiques. Il est bien plus difficile d'échapper aux trames ourdies dans l'ombre. Les conclavistes qui accompagnent nos cardinaux m'ont paru des hommes raisonnables. Le seul abbé Coudrin dont vous m'avez parlé est un de ces esprits compacts et rétrécis dans lesquels rien ne peut entrer, un de ces hommes qui se sont trompés de profession. Vous n'ignorez pas qu'il est moine, chef d'ordre, et qu'il a même des bulles d'institution. Cela ne s'accorde guère avec nos lois civiles et nos institutions politiques. Il se pourrait faire que le pape fût élu à la fin de la semaine. Mais si les cardinaux français manquent le premier effet de leur présence, il deviendra impossible d'assigner un terme au conclave. De nouvelles combinaisons amèneraient peut-être une nomination inattendue. On s'arrangerait, pour en finir, de quelques cardinals insignifiants, tels que Dandini. Je me suis jadis, monsieur le comte, trouvé dans des circonstances difficiles, soit comme ambassadeur à Londres, soit comme ministre pendant la guerre d'Espagne, soit comme membre de la Chambre des Pairs, soit comme chef de l'opposition. Mais rien ne m'a donné autant d'inquiétude et de soucis que ma position actuelle au milieu de tous les genres d'intrigues. Il faut que j'agisse sur un corps invisible, renfermé dans une prison dont les abords sont strictement gardés. Je n'ai ni argent à donner, ni places à promettre. Les passions caduques d'une cinquantaine de vieillards ne m'offrent aucune prise sur elles. J'ai à combattre la bêtise dans les uns, l'ignorance du siècle dans les autres. Le fanatisme dans ceux-ci, l'astuce et la duplicité dans ceux-là. Dans presque tous, l'ambition, les intérêts, les haines politiques, et je suis séparé par des murs et par des mystères de l'Assemblée où fermentent tant d'éléments de division. À chaque instant, la scène varie. Tous les quarts d'heure, des rapports contradictoires me plongent dans de nouvelles perplexités. Ce n'est pas, monsieur le comte, pour me faire valoir que je vous entretiens de ces difficultés, mais pour me servir d'excuse dans le cas où l'élection produirait un pape contraire à ce qu'elle semble promettre et à la nature de nos vœux. À la mort de Pie VII, les questions religieuses n'avaient point encore agité l'opinion. Ces questions sont venues aujourd'hui se mêler à la politique, et jamais l'élection du chef de l'Église ne pouvait tomber plus mal à propos. J'ai l'honneur, etc. À Madame Récamier. Rome, 17 mars 1829. Le roi de Bavière est venu me voir en frac. Nous avons parlé de vous. Ce souverain grec, en portant une couronne, semble savoir ce qu'il a sur la tête et comprendre qu'on ne cloue pas le temps au passé. Il dîne chez moi jeudi et ne veut personne. Au reste, nous voilà au milieu de grands événements. Un pape à faire. Que sera-t-il ? L'émancipation des catholiques passera-t-elle ? Une nouvelle campagne en Orient. De quel côté sera la victoire ? Profiterons-nous de cette position ? Qui conduira nos affaires ? Y a-t-il une tête capable d'apercevoir tout ce qui se trouve là-dedans pour la France et d'en profiter selon les événements ? Je suis persuadée qu'on n'y pense seulement pas à Paris et qu'entre les salons et les chambres, les plaisirs et les lois, les joies du monde et les inquiétudes ministérielles, on se soucie de l'Europe comme de rien du tout. Il n'y a que moi qui, dans mon exil, ai le temps de songer creux et de regarder autour de moi. Hier, je suis allé me promener par une espèce de tempête sur l'ancien chemin de Tivoli. Je suis arrivé à l'ancien pavé romain, si bien conservé qu'on croirait qu'il a été posé nouvellement. Horace avait pourtant foulé les pierres que je foulais. Où est Horace ? Chapitre 5. Le marquis Capponi. Dépêche. Le marquis Capponi, arrivant de Florence, m'apporta des lettres de recommandation de ses amis de Paris. je répondis à l'une de ces lettres le 21 mars 1829. J'ai reçu vos deux lettres. Les services que je puis rendre ne sont rien, mais je suis tout à vos ordres. Je n'en étais pas à savoir ce que c'était que le marquis Capponi. Je vous annonce qu'il est toujours beau. Il a tenu bon contre le temps. Je n'ai point répondu à votre première lettre toute pleine d'enthousiasme pour le sublime Mahmoud et pour la barbarie disciplinée, pour ses esclaves bâtonnés en soldats. Que les femmes soient transportées d'admiration pour les hommes qui en épousent à la fois des centaines, qu'elles prennent cela pour le progrès des Lumières et de la civilisation, je le conçois. Mais moi, je tiens à mes pauvres Grecs. Je veux leur liberté comme celle de la France. Je veux aussi des frontières qui couvrent Paris, qui assurent notre indépendance. Et ce n'est pas avec la triple alliance du pal de Constantinople, de la Schlag de Vienne et des coups de poing de Londres que vous aurez la rive du Rhin. Grand merci de la police d'honneur que notre gloire pourrait obtenir de l'invincible chef des croyants, lequel n'est pas encore sorti des faubourgs de son sérail. J'aime mieux cette gloire toute nue. Elle est femme et belle. Phidias se serait bien gardé de lui mettre une robe de chambre turque. À Madame Récamier. Rome, le 21 mars 1829. Eh bien, j'ai raison contre vous. Je suis allé hier entre deux scrutins, et en attendant un pape, à Saint-Onufre. Ce sont bien deux orangers qui sont dans le cloître, et point un chêne vert. Je suis tout fier de cette fidélité de ma mémoire. J'ai couru presque les yeux fermés à la petite pierre qui recouvre votre ami. Je l'aime mieux que le grand tombeau qu'on va lui élever. Quelle charmante solitude, quelle admirable vue, quel bonheur de reposer là, entre les fresques du Dominicain et celles de Léonard de Vinci. Je voudrais y être. Je n'ai jamais été plus tenté. Vous a-t-on laissé entrer dans l'intérieur du couvent? Avez-vous vu, dans un long corridor, cette tête ravissante, quoique à moitié effacée, d'une Madone de Léonard de Vinci? Avez-vous vu dans la bibliothèque le masque du Tasse, sa couronne de laurier flétrie, un miroir dont il se servait, son écritoire, sa plume et la lettre écrite de sa main, collée sur une planche qui pend au bas de son buste? Dans cette lettre, d'une petite écriture raturée, mais facile à lire, il parle d'amitié et du vent de la fortune. Celui-là n'avait guère soufflé pour lui, et l'amitié lui avait souvent manqué. Point de pape encore, nous l'attendons d'heure en heure. Mais si le choix a été retardé, si des obstacles se sont élevés de toutes parts, ce n'est pas ma faute. Il m'aurait fallu écouter un peu davantage, et ne pas agir tout juste en sens contraire de ce qu'on paraissait désirer. Au reste, à présent, il me semble que tout le monde veut être en paix avec moi. Le cardinal de Clermont-Tonnerre, lui-même, vient de m'écrire qu'il réclame mes anciennes bontés pour lui, et après tout cela, il descend chez moi, résolu à voter pour le pape le plus modéré. Vous avez lu mon second discours. Remerciez M. Kératry, qui a parlé si obligeamment du premier. J'espère qu'il sera encore plus content de l'autre. Nous tâcherons tous les deux de rendre la liberté chrétienne, et nous y parviendrons. Que dites-vous de la réponse que le cardinal Castiglioni m'a faite? Suis-je assez loué en plein conclave? Vous n'auriez pas mieux dit dans vos jours de gâterie.
24 mars 1829.
Si j'en croyais les bruits de Rome, nous aurions un pape demain. Mais je suis dans un moment de découragement, et je ne veux pas croire à un tel bonheur. Vous comprenez bien que ce bonheur n'est pas le bonheur politique, la joie d'un triomphe, mais le bonheur d'être libre et de vous retrouver. Quand je vous parle tant de conclave, je suis comme les gens qui ont une idée fixe et qui croient que le monde n'est occupé que de cette idée. Et pourtant, à Paris, qui pense au conclave? Qui s'occupe d'un pape et de mes tribulations? La légèreté française, les intérêts du moment, les discussions des chambres, les ambitions émues ont bien autre chose à faire. lorsque le duc de Laval m'écrivait aussi ses soucis sur son conclave, tout préoccupé de la guerre d'Espagne que j'étais, je disais en recevant ses dépêches, « Eh, bon Dieu, il s'agit bien de cela. » Monsieur Portalis doit aujourd'hui me faire subir la peine du talion. Il est vrai de dire cependant que les choses à cette époque n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les idées religieuses n'étaient pas mêlées aux idées politiques comme elles le sont dans toute l'Europe. La querelle n'était pas là. La nomination d'un pape ne pouvait pas, comme à cette heure, troubler ou calmer les États. Depuis la lettre qui m'annonçait la prolongation du congé de M. de La Ferronnays et son départ pour Rome, je n'ai rien appris. Je crois pourtant cette nouvelle vraie. Monsieur Thierry m'a écrit d'hier une lettre touchante. Il dit qu'il se meurt, et pourtant il veut une place à l'Académie des inscriptions, et me demande d'écrire pour lui. Je vais le faire. Ma fouille continue à me donner des sarcophages. La mort ne peut fournir que ce qu'elle a. Le monument du Poussin avance. Il sera noble et grand. Vous ne sauriez croire combien le tableau des bergers d'Arcadie était fait pour un bas-relief et convient à la sculpture. 28 mars. Monsieur le cardinal de Clermont-Tonnerre, descendu chez moi, entre aujourd'hui au conclave. C'est le siècle des merveilles. J'ai auprès de moi le fils du maréchal Lannes et le petit-fils du chancelier. Messieurs du constitutionnel dînent à ma table auprès de messieurs de la quotidienne. Voilà l'avantage d'être sincère. Je laisse chacun penser ce qu'il veut, pourvu qu'on m'accorde la même liberté. Je tâche seulement que mon opinion ait la majorité, parce que je la trouve, comme de raison, meilleure que celle des autres. C'est à cette sincérité que j'attribue le penchant qu'ont les opinions les plus divergentes à se rapprocher de moi. J'exerce envers elles le droit d'asile. On ne peut les saisir sous mon toit. À Monsieur le Duc de Blacas, Rome, 24 mars 1829. Je suis bien fâché, Monsieur le Duc, qu'une phrase de ma lettre ait pu vous causer quelque inquiétude. Je n'ai point du tout à me plaindre d'un homme de sens et d'esprit, Monsieur Fuscaldo, qui ne m'a dit que des lieux communs de diplomatie. Nous autres ambassadeurs, disons-nous autre chose. Quant au cardinal dont vous me faites l'honneur de me parler, le gouvernement français n'a désigné particulièrement personne. Il s'en est entièrement rapporté à ce que je lui ai mandé. 7 ou 8 cardinaux modérés ou pacifiques, qui semblent attirer également les vœux de toutes les cours, sont les candidats entre lesquels nous désirons voir se fixer les suffrages. Mais si nous n'avons pas la prétention d'imposer un choix à la majorité du conclave, nous repoussons de toutes nos forces, et par tous les moyens, 3 ou 4 cardinaux fanatiques, intrigants ou incapables, que porte la minorité. Je n'ai, monsieur le duc, aucun moyen possible de vous faire passer cette lettre. Je la mets donc tout simplement à la poste, parce qu'elle ne renferme rien que vous et moi ne puissions avouer tout haut. J'ai l'honneur, etc. À Madame Récamier, Rome, le 31 mars 1829. Monsieur de Montebello est arrivé et m'a apporté votre lettre avec une lettre de Monsieur Bertin et de Monsieur Villemain. Mes fouilles vont bien. Je trouve force sarcophages vides. J'en pourrais choisir un pour moi, sans que ma poussière soit obligée de chasser celle de ces vieux morts que le vent a déjà emporté. Les sépulcres dépeuplés offrent le spectacle d'une résurrection, et pourtant ils n'attendent qu'une mort plus profonde. Ce n'est pas la vie, c'est le néant qui a rendu ces tombes désertes. Pour achever mon petit journal du moment, je vous dirai que je suis monté avant-hier à la boule de Saint-Pierre pendant une tempête. Vous ne sauriez vous figurer ce que c'était que le bruit du vent au milieu du ciel, autour de cette coupole de Michel-Ange, et au-dessus de ce temple des chrétiens qui écrase la vieille Rome. À Madame Récamier, 31 mars au soir. Victoire ! J'ai un des papes que j'avais mis sur ma liste. C'est Castiglioni, le cardinal même que je portais à la papauté en 1823, lorsque j'étais ministre. Celui qui m'a répondu dernièrement au conclave de 1829 en me donnant force louange. Castiglioni est modéré et dévoué à la France. C'est un triomphe complet. Le conclave, avant de se séparer, a ordonné d'écrire au nonce à Paris pour lui dire d'exprimer au roi la satisfaction que le sacré collège a éprouvée de ma conduite. J'ai déjà expédié cette nouvelle à Paris par le télégraphe. Le préfet du Rhône est l'intermédiaire de cette correspondance aérienne, et ce préfet est M. de Brosse, fils de ce comte de Brosse, le léger voyageur à Rome, souvent cité dans les notes que je rassemble en vous écrivant. Le courrier qui vous porte cette lettre porte ma dépêche à M. Portalis. Je n'ai plus deux jours de suite de bonne santé. Cela me fait enrager, car je n'ai cœur à rien au milieu de mes souffrances. J'attends pourtant avec quelque impatience ce qui résultera à Paris de la nomination de mon pape, ce qu'on dira, ce qu'on fera, ce que je deviendrai. Le plus sûr, c'est le congé demandé. J'ai vu par les journaux la grande querelle du constitutionnel sur mon discours. Il accuse le messager de ne l'avoir pas imprimé. Et nous avons à Rome des messagers du 22 mars, la querelle est du 24 et 25, qui ont le discours. N'est-ce pas singulier ? Il paraît clair qu'il y a eu deux éditions, l'une pour Rome et l'autre pour Paris. Pauvres gens, je pense au mécompte d'un autre journal. Il assure que le conclave aura été très mécontent de ce discours. Qu'aura-t-il dit quand il aura vu les éloges que me donne le cardinal Castiglioni, qui est devenu pape ? Quand cesserai-je de vous parler de toutes ces misères ? Quand ne m'occuperai-je plus que d'achever les mémoires de ma vie, et ma vie aussi, comme dernière page de mes mémoires ? J'en ai bien besoin. Je suis bien là. Le poids des jours augmente et se fait sentir sur ma tête. Je m'amuse à l'appeler un rhumatisme, mais on ne guérit pas de celui-là. Un seul mot me soutient quand je le répète. À bientôt. 3 avril. J'oubliais de vous dire que le cardinal Fesch, s'étant très bien conduit dans le conclave et ayant voté avec nos cardinaux, j'ai franchi le pas et je l'ai invité à dîner. Il a refusé par un billet plein de mesures. Dépêche à M. le comte Portalis. Rome, ce 2 avril 1829. Monsieur le comte, le cardinal Albani a été nommé secrétaire d'État, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le mander dans ma première lettre portée à Lyon par le courrier à cheval expédié le 31 mars au soir. Le nouveau ministre ne plaît ni à la faction sarde, ni à la majorité du sacré collège, ni même à l'Autriche, parce qu'il est violent, anti-jésuite, rude dans son abord et italien avant tout. Riche et excessivement avare, le cardinal Albani se trouve mêlé dans toutes sortes d'entreprises et de spéculations. J'allais hier lui faire ma première visite. Aussitôt qu'il m'aperçut, il s'écria « Je suis un cochon ». Il était en effet fort sale. « Vous verrez que je ne suis pas un ennemi. » Je vous rapporte, monsieur le comte, ses propres paroles. Je lui répondis que j'étais bien loin de le regarder comme un ennemi. « À vous autres, reprit-il, il faut de l'eau et non pas du feu. Ne connais-je pas votre pays ? N'ai-je pas vécu en France ?» Il parle français comme un français. « Vous serez content et votre maître aussi. Comment se porte le roi ? Bonjour, allons à Saint-Pierre. » Il était 8 heures du matin. J'avais déjà vu sa sainteté et tout Rome courait à la cérémonie de l'adoration. Le cardinal Albani est un homme d'esprit, faux par caractère et franc par humeur. Sa violence déjoue sa ruse. On peut en tirer parti en flattant son orgueil et satisfaisant son avarice. Pie VIII est très savant, surtout en matière de théologie. Il parle français, mais avec moins de facilité et de grâce que Léon XII. il est attaqué sur le côté droit d'une demi-paralysie et sujet à des mouvements convulsifs. La suprême puissance le guérira. Il sera couronné dimanche prochain, jour de la Passion, 5 avril. Maintenant, monsieur le comte, que la principale affaire qui me retenait à Rome est terminée, je vous serai infiniment obligé de m'obtenir de la bienveillance de Sa Majesté un congé de quelques mois. Je ne m'en servirai qu'après avoir remis au pape la lettre par laquelle le roi répondra à celle que Pie VIII lui a écrite ou va lui écrire pour lui annoncer son élévation sur la chaire de Saint-Pierre. Permettez-moi de solliciter de nouveau, en faveur de mes deux secrétaires de légation, M. Belloc et M. de Givray, les grâces que je vous ai demandées pour eux. Les intrigues du cardinal Albani dans le conclave, les partisans qu'il s'était acquis, même dans la majorité, m'avaient fait craindre quelques coups imprévus pour le porter au souverain pontificat. Il me paraissait impossible de se laisser ainsi surprendre et de permettre au chargé d'affaires de l'Autriche de ceindre la tiare sous les yeux de l'ambassadeur de France. Je profitai donc de l'arrivée de M. le cardinal de Clermont-Tonnerre pour le charger à tout événement de la lettre ci-jointe, dont je prenais les dispositions sous ma responsabilité. Heureusement, il n'a point été dans le cas de faire usage de cette lettre. Il me l'a rendue, et j'ai l'honneur de vous l'envoyer. J'ai l'honneur, etc., etc. Chapitre 6. Lettre à Monseigneur le Cardinal de Clermont-Tonnerre. Dépêche à Monsieur le Comte Portalis. Lettres à Madame Récamier. À son Éminence Monseigneur le Cardinal de Clermont-Tonnerre. Rome, ce 28 mars 1829. Monseigneur, ne pouvant plus communiquer avec vos collègues, messieurs les cardinaux français, renfermés au palais de Montecavallo, étant obligé de tout prévoir pour l'avantage du service du roi et dans l'intérêt de notre pays, sachant combien de nominations inattendues ont eu lieu dans les conclaves, je me vois à regret dans la fâcheuse nécessité de confier à votre éminence une exclusion éventuelle. Bien que M. le cardinal Albani ne paraisse avoir aucune chance, il n'en est pas moins un homme de capacité sur lequel, dans une lutte prolongée, on pourrait jeter les yeux. Mais il est le cardinal chargé au conclave des instructions de l'Autriche. M. le comte de Lutzow, dans son discours, l'a déjà désigné officiellement en cette qualité. Or, il est impossible de laisser porter au souverain pontificat un cardinal appartenant ouvertement à une couronne, pas plus à la couronne de France qu'à tout autre. En conséquence, Monseigneur, je vous charge, en vertu de mes pleins pouvoirs comme ambassadeur de Sa Majesté très chrétienne, et prenant sur moi seul toute la responsabilité, de donner l'exclusion à M. le cardinal Albani. Si, d'un côté, par une rencontre fortuite, et de l'autre, par une combinaison secrète, il venait à obtenir la majorité des suffrages. Je suis, etc., etc. Cette lettre d'exclusion, confiée à un cardinal par un ambassadeur qui n'y est pas autorisé formellement, est une témérité en diplomatie. Il y a là de quoi faire frémir tous les hommes d'État à domicile, tous les chefs de division, tous les premiers commis, tous les copistes aux affaires étrangères. Mais puisque le ministre ignorait sa chose, au point de ne pas même songer au cas éventuel d'exclusion, force m'était d'y songer pour lui. Supposez qu'Albani eût été nommé pape par aventure, que serais-je devenu? J'aurais été à jamais perdu comme homme politique. Je dis ceci, non pour moi, qui me soucie peu du renom d'homme politique, mais pour la génération future des écrivains, à qui on ferait du bruit de mon accident et qui expirait mon malheur aux dépens de leur carrière, comme on donne le fouet aux menins quand M. le Dauphin a fait une sottise. Mais il ne faudrait pas trop non plus admirer ma prévoyante audace en prenant sur moi la lettre d'exclusion. Ce qui paraît une énormité, mesuré à la courte échelle des vieilles idées diplomatiques, n'était au fond rien du tout dans l'ordre actuel de la société. Cette audace me venait, d'un côté, de mon insensibilité pour toute disgrâce, de l'autre, de ma connaissance des opinions de mon temps. Le monde, tel qu'il est fait aujourd'hui, ne donne pas deux sous de la nomination d'un pape, des rivalités des couronnes et des intrigues de l'intérieur d'un conclave. Dépêche à Monsieur le Comte Portalis, confidentiel. Rome, ce 2 avril 1829. Monsieur le Comte, j'ai l'honneur de vous envoyer aujourd'hui les documents importants que je vous ai annoncés. Ce n'est rien moins que le journal officiel et secret du conclave. Il est traduit, mot pour mot, sur l'original italien. J'en ai fait disparaître seulement tout ce qui pouvait indiquer, avec trop de précision, les sources où j'ai puisé. S'il transpirait la moindre chose de ces révélations, dont il n'y a peut-être pas un autre exemple, il en coûterait la fortune, la liberté et la vie peut-être à plusieurs personnes. Cela serait d'autant plus déplorable que ces révélations ne sont point dues à l'intérêt et à la corruption, mais à la confiance dans l'honneur français. Cette pièce, monsieur le comte, doit donc demeurer à jamais secrète après avoir été lue dans le conseil du roi, car, malgré les précautions que j'ai prises de taire les noms et de retrancher les choses directes, elle en dit encore assez pour compromettre ses auteurs. J'y ai joint un commentaire, afin d'en faciliter la lecture. Le gouvernement pontifical est dans l'usage de tenir un registre où sont notées jour par jour, et pour ainsi dire heure par heure, ses décisions, ses gestes et ses faits. Quel trésor historique si l'on pouvait y fouiller en remontant vers les premiers siècles de la papauté. Il m'a été entrouvert un moment pour l'époque actuelle. Le roi verra, par les documents que je vous transmets, ce qu'on n'a jamais vu, l'intérieur d'un conclave. Les sentiments les plus intimes de la cour de Rome lui seront connus, et les ministres de Sa Majesté ne marcheront pas dans l'ombre. Le commentaire que j'ai fait du journal, me dispensant de toute autre réflexion, il ne me reste plus qu'à vous offrir la nouvelle assurance de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur, etc., etc. L'original italien du document précieux, annoncé dans cette dépêche confidentielle, a été brûlé à Rome sous mes yeux. Je n'ai point gardé copie de la traduction de ce document que j'ai envoyé aux affaires étrangères. J'ai seulement une copie du commentaire ou des remarques jointes par moi à cette traduction. Mais la même discrétion qui m'a fait recommander au ministre de garder la pièce à jamais secrète m'oblige de supprimer ici mes propres remarques. Car, quelle que soit l'obscurité dont ces remarques sont enveloppées par l'absence du document auquel elles se rapportent, cette obscurité serait encore de la lumière à Rome. Or, les ressentiments sont longs dans la ville éternelle. Il se pourrait faire que dans 50 ans d'ici, ils allassent frapper quelque arrière-neveu des auteurs de la mystérieuse confidence. Je me contenterai donc de donner un aperçu général du contenu du commentaire, en insistant sur quelques passages qui ont un rapport direct avec les affaires de France. On voit premièrement combien la cour de Naples trompait M. de Blacas, ou combien elle était elle-même trompée. Car pendant qu'elle me faisait dire que les cardinaux napolitains voteraient avec nous, ils se réunissaient à la minorité ou à la faction dite de Sardaigne. La minorité de cardinaux se figurait que le vote des cardinaux français influerait sur la forme de notre gouvernement. Comment cela ? Apparemment par les ordres secrets dont on les supposait chargés, et par leur vote en faveur d'un pape exalté. Le nonce Lambruschini affirmait au conclave que le cardinal de Latil avait le secret du roi. Tous les efforts de la faction tendaient à faire croire que Charles X et son gouvernement n'étaient pas d'accord. Le 13 mars, le cardinal de Latil annonce qu'il a à faire au conclave une déclaration purement de conscience. Il est renvoyé devant 4 cardinaux évêques. Les actes de cette confession secrète demeurent à la garde du grand pénitencier. Les autres cardinaux français ignorent la matière de cette confession. et le cardinal Albani cherche en vain à la découvrir. Le fait est important et curieux. La minorité est composée de 16 voix compactes. Les cardinaux de cette minorité s'appellent les pères de la croix. Ils mettent sur leur porte une croix de Saint-André pour annoncer que, déterminés dans leur choix, ils ne veulent plus communiquer avec personne. La majorité du conclave montre des sentiments raisonnables et la ferme résolution de ne se mêler en rien de la politique étrangère. Le procès-verbal dressé par le notaire du conclave est digne d'être remarqué. Pie VIII, y est-il dit à la conclusion. C'est déterminé à nommer le cardinal Albani secrétaire d'État, afin de satisfaire aussi le cabinet de Vienne. Le souverain pontife partage les lots entre les deux couronnes. Il se déclare le pape de la France et donne à l'Autriche la secrétairerie d'État. À Madame Récamier. Rome, mercredi 8 avril 1829. J'ai donné aujourd'hui même à dîner à tout le conclave. Demain, je reçois la grande-duchesse Hélène. Le mardi de Pâques, j'ai un bal pour la clôture de la session. Et puis je me prépare à aller vous voir. Jugez de mon anxiété. Au moment où je vous écris, je n'ai point encore de nouvelles de mon courrier à cheval annonçant la mort du pape. Et pourtant le pape est déjà couronné. Léon XII est oublié. J'ai repris les affaires avec le nouveau secrétaire d'État, Albani. Tout marche comme s'il n'était rien arrivé. Et j'ignore si vous savez même à Paris qu'il y a un nouveau pontife. Que cette cérémonie de la bénédiction papale est belle. La Sabine à l'horizon, puis la campagne déserte de Rome, puis Rome elle-même, puis la place Saint-Pierre et tout le peuple tombant à genoux sous la main d'un vieillard. Le pape est le seul prince qui bénisse ses sujets. J'en étais là de ma lettre lorsqu'un courrier qui m'arrive de Gênes m'apporte une dépêche télégraphique de Paris à Toulon, laquelle dépêche, qui répond à celle que j'avais fait passer, m'apprend que le 4 avril, à 11h du matin, on a reçu à Paris ma dépêche télégraphique de Rome à Toulon, dépêche qui annonçait la nomination du cardinal Castiglioni, et que le roi est fort content. La rapidité de ces communications est prodigieuse. Mon courrier est parti le 31 mars à 8h du soir, et le 8 avril, à 8h du soir, j'ai reçu la réponse de Paris. 11 avril 1829. Nous voilà au 11 avril. Dans 8 jours, nous aurons Pâques. Dans 15 jours, mon congé. Et puis vous voir. Tout disparaît dans cette espérance. Je ne suis plus triste. Je ne songe plus au ministre ni à la politique. Demain, nous commençons la semaine sainte. Je penserai à tout ce que vous m'avez dit. Que n'êtes-vous ici pour entendre avec moi les beaux chants de douleur? Nous irions nous promener dans les déserts de la campagne de Rome, maintenant couverts de verdure et de fleurs. Toutes les ruines semblent rajeunir avec l'année. Je suis d'une ombre. Mercredi Saint, 15 avril. Je sors de la chapelle Sixtine après avoir assisté à Ténèbres et entendu chanter le Miserere. Je me souvenais que vous m'aviez parlé de cette cérémonie et j'en étais à cause de cela 100 fois plus touché. Le jour s'affaiblissait. Les ombres envahissaient lentement les fresques de la chapelle, et l'on n'apercevait plus que quelques grands traits du pinceau de Michel-Ange. Les cierges, tour à tour éteints, laissaient échapper de leur lumière étouffée une légère fumée blanche, image assez naturelle de la vie que l'Écriture compare à une petite vapeur. Les cardinaux étaient à genoux, le nouveau pape prosterné au même autel où quelques jours avant j'avais vu son prédécesseur. L'admirable prière de pénitence et de miséricorde, qui avait succédé aux lamentations du prophète, s'élevait par intervalles dans le silence et la nuit. On se sentait accablé sous le grand mystère d'un Dieu mourant pour effacer les crimes des hommes. La catholique héritière sur ses 7 collines était là, avec tous ses souvenirs. Mais, au lieu de ces pontifes puissants, de ces cardinaux qui disputaient la préséance au monarque. Un pauvre vieux pape paralytique, sans famille et sans appui, des princes de l'Église sans éclat, annonçaient la fin d'une puissance qui civilisa le monde moderne. Les chefs-d'œuvre des arts disparaissaient avec elle, s'effaçaient sur les murs et sur les voûtes du Vatican, palais à demi abandonnés. Des étrangers curieux, séparés de l'unité de l'Église, assistaient en passant à la cérémonie et remplaçaient la communauté des fidèles. Une double tristesse s'emparait du cœur. Rome chrétienne, en commémorant l'agonie de Jésus-Christ, avait l'air de célébrer la sienne, de redire pour la nouvelle Jérusalem les paroles que Jérémie adressait à l'ancienne. C'est une belle chose que Rome, pour tout oublier, mépriser tout et mourir. Dépêche à Monsieur le Comte Portalis. Rome, ce 16 avril 1829. Monsieur le Comte, les choses se développent ici comme j'avais eu l'honneur de vous le faire pressentir. Les paroles et les actions du nouveau souverain pontife sont parfaitement d'accord avec le système pacificateur suivi par Léon XII. Pie VIII va même plus loin que son prédécesseur. Il s'exprime avec plus de franchise sur la charte, dont il ne craint pas de prononcer le mot, et de conseiller aux Français de suivre l'esprit. Le nonce, ayant encore écrit sur nos affaires, a reçu sèchement l'ordre de se mêler des siennes. Tout se conclut pour le concordat des Pays-Bas, et M. le comte de Celle mettra fin à sa mission le mois prochain. Le cardinal Albani, dans une position difficile, est obligé de l'expier. Les protestations qu'il me fait de son dévouement à la France blessent l'ambassadeur d'Autriche, qui ne peut cacher son humeur. Sous les rapports religieux, nous n'avons rien à craindre du cardinal Albani. Fort peu religieux lui-même, il ne sera poussé à nous troubler ni par son propre fanatisme, ni par l'opinion modérée de son souverain. Quant aux rapports politiques, ce n'est pas avec une intrigue de police et une correspondance chiffrée que l'on escamotera aujourd'hui l'Italie. Laisser occuper les légations ou mettre garnison autrichienne à Ancône sous un prétexte quelconque, ce serait remuer l'Europe et déclarer la guerre à la France. Or, nous ne sommes plus en 1814, 1815, 1816 et 1817. On ne satisfait pas impunément sous nos yeux une ambition avide et injuste. Ainsi, que le cardinal Albani ait une pension du prince de Metternich, qu'il soit le parent du duc de Modène, auquel il prétend laisser son énorme fortune, qu'il trame avec ce prince un petit complot contre l'héritier de la couronne de Sardaigne. Tout cela est vrai. Tout cela aurait été dangereux à l'époque où des gouvernements secrets et absolus faisaient marcher obscurément des soldats derrière une obscure dépêche. Mais aujourd'hui, avec des gouvernements publics, avec la liberté de la presse et de la parole, avec le télégraphe et la rapidité de toutes les communications, avec la connaissance des affaires répandues dans les diverses classes de la société, on est à l'abri des tours de gobelet et des finesses de la vieille diplomatie. Toutefois, il ne faut pas se dissimuler qu'un chargé d'affaires d'Autriche, secrétaire d'État à Rome, a des inconvénients. Il y a même certaines notes, par exemple celles qui seraient relatives à la puissance impériale en Italie, qu'on ne pourrait mettre entre les mains du cardinal Albani. Personne n'a encore pu pénétrer le secret d'une nomination qui déplaît à tout le monde, même au cabinet de Vienne. Cela tient-il à des intérêts étrangers à la politique? On assure que le cardinal Albani offre dans ce moment au Saint-Père de lui avancer 200 000 piastres dont le gouvernement de Rome a besoin. D'autres prétendent que cette somme serait prêtée par un banquier autrichien. Le cardinal Macchi me disait samedi dernier que sa sainteté, ne voulant pas reprendre le cardinal Bernetti et désirant néanmoins lui donner une grande place, n'avait trouvé d'autre moyen d'arranger les choses que de rendre vacante la légation de Bologne. de misérables embarras deviennent souvent les motifs des plus importantes résolutions. Si la version du cardinal Macquis est la véritable, tout ce que dit et fait Pie VIII pour la satisfaction des couronnes de France et d'Autriche ne serait qu'une raison apparente, à l'aide de laquelle il chercherait à masquer à ses propres yeux sa propre faiblesse. Au surplus, on ne croit point à la durée du ministère d'Albanie. Aussitôt qu'il entrera en relation avec les ambassadeurs, les difficultés naîtront de toutes parts. Quant à la position de l'Italie, monsieur le comte, il faut lire avec précaution ce qu'on vous en mandera de Naples ou d'ailleurs. Il est malheureusement trop vrai que le gouvernement des deux Siciles est tombé au dernier degré du mépris. La manière dont la cour vit au milieu de ses gardes, toujours tremblante, toujours poursuivie par les fantômes de la peur, n'offrant pour tout spectacle que des chasses ruineuses et des gibets, contribue de plus en plus dans ce pays à avilir la royauté. Mais on prend pour des conspirations ce qui n'est que le malaise de tous, le produit du siècle, la lutte de l'ancienne société avec la nouvelle, le combat de la décrépitude des vieilles institutions contre l'énergie des jeunes générations, enfin la comparaison que chacun fait de ce qui est à ce qui pourrait être. Ne nous le dissimulons pas. Le grand spectacle de la France puissante, libre et heureuse, ce grand spectacle qui frappe les yeux des nations restées ou retombées sous le joug, excite des regrets ou nourrit des espérances. Le mélange des gouvernements représentatifs et des monarchies absolues ne saurait durer. Il faut que les unes ou les autres périssent, que la politique reprenne un égal niveau, ainsi que du temps de l'Europe gothique. La douane d'une frontière ne peut désormais séparer la liberté de l'esclavage. Un homme ne peut plus être pendu de ce côté-ci d'un ruisseau pour des principes réputés sacrés de l'autre côté de ce même ruisseau. C'est dans ce sens, monsieur le comte, et uniquement dans ce sens, qu'il y a conspiration en Italie. C'est dans ce sens encore que l'Italie est française. Le jour où elle entrera en jouissance des droits que son intelligence aperçoit et que la marche progressive du temps lui apporte, elle sera tranquille et purement italienne. Ce ne sont point quelques pauvres diables de Carbonari, excités par des manœuvres de police et pendus sans miséricorde, qui soulèveront ce pays. On donne au gouvernement les idées les plus fausses du véritable état des choses. On les empêche de faire ce qu'ils devraient faire pour leur sûreté, en leur montrant toujours, comme les conspirations particulières d'une poignée de jacobins, ce qui est l'effet d'une cause permanente et générale. Telle est, monsieur le comte, la position réelle de l'Italie. Chacun de ces États, outre le travail commun des esprits, est tourmenté par quelque maladie locale. Le Piémont est livré à une faction fanatique. Le Milanais est dévoré par les Autrichiens. Les domaines du Saint-Père sont ruinés par la mauvaise administration des finances. L'impôt s'élève à près de 50 millions et ne laisse pas au propriétaire 1% de son revenu. Les douanes ne rapportent presque rien. La contrebande est générale. Le prince de Modène a établi dans son duché, lieu de franchise pour tous les anciens abus, des magasins de marchandises prohibés, lesquels il fait entrer la nuit dans la légation de Bologne. Je vous ai déjà, monsieur le comte, parlé de Naples, où la faiblesse du gouvernement n'est sauvée que par la lâcheté des populations. C'est cette absence de la vertu militaire qui prolongera l'agonie de l'Italie. Bonaparte n'a pas eu le temps de faire revivre cette vertu dans la patrie de Marius et de César. Les habitudes d'une vie oisive et le charme du climat contribuent encore à ôter aux Italiens du Midi le désir de s'agiter pour être mieux. Les antipathies nées des divisions territoriales ajoutent aux difficultés d'un mouvement intérieur. Mais si quelque impulsion venait du dehors, ou si quelque prince en deçà des Alpes accordait une charte à ses sujets, une révolution aurait lieu, parce que tout est mûr pour cette révolution. Plus heureux que nous et instruits par notre expérience, les peuples économiseraient les crimes et les malheurs dont nous avons été prodigues. Je vais sans doute, monsieur le comte, recevoir bientôt le congé que je vous ai demandé. Peut-être en ferai-je usage. Au moment donc de quitter l'Italie, j'ai cru devoir mettre sous vos yeux quelques aperçus généraux pour fixer les idées du conseil du roi et afin de le tenir en garde contre les rapports des esprits bornés ou des passions aveugles. J'ai l'honneur, etc., etc. À Monsieur le Comte Portalis, Rome, ce 16 avril 1829. Monsieur le Comte, messieurs les cardinaux français sont fort empressés de connaître quelle somme leur sera accordée pour leurs dépenses et leur séjour à Rome. Ils m'ont prié plusieurs fois de vous écrire à ce sujet. Je vous serai donc infiniment obligé de m'instruire le plus tôt possible de la décision du roi. Pour ce qui me regarde, monsieur le comte, lorsque vous avez bien voulu m'allouer un secours de 30 000 francs, vous avez supposé qu'aucun cardinal ne logerait chez moi. Or, monsieur de Clermont-Tonnerre s'y est établi, avec sa suite, composée de 2 conclavistes, d'un secrétaire ecclésiastique, d'un secrétaire laïque, d'un valet de chambre, de 2 domestiques et d'un cuisinier français. Enfin, d'un maître de chambre romain, d'un maître de cérémonie, de 3 valets de pied, d'un cocher et de toute cette maison italienne qu'un cardinal est obligé d'avoir ici. Monsieur l'archevêque de Toulouse, qui ne peut marcher, ne dîne point à ma table. Il faut 2 ou 3 services à différentes heures, des voitures et des chevaux pour les commensaux et les amis. Mon respectable hôte ne payera certainement pas sa dépense ici. Il partira et les mémoires me resteront. Il me faudra acquitter non seulement ceux du cuisinier, de la blanchisseuse, du loueur de carrosses, etc., etc., mais encore ceux des 2 chirurgiens qui visitent la jambe de Monseigneur, du cordonnier qui fait ses mules blanches et pourpres, et du tailleur qui a confectionné les manteaux, les soutanes, les rabats, l'ajustement complet du cardinal et de ses abbés. Si vous joignez à cela, monsieur le comte, mes dépenses extraordinaires pour frais de représentation avant, pendant et après le conclave, dépenses augmentées par la présence de la grande duchesse Hélène, du prince Paul de Wurtemberg et du roi de Bavière, vous trouverez sans doute que les 30 000 francs que vous m'avez accordés seront de beaucoup dépassés. La première année de l'établissement d'un ambassadeur est ruineuse, les secours accordés pour cet établissement étant fort au-dessous des besoins. Il faut presque 3 ans de séjour pour qu'un agent diplomatique ait trouvé le moyen d'acquitter les dettes qu'il a contractées d'abord et de mettre ses dépenses au niveau de ses recettes. Je connais toute la pénurie du budget des affaires étrangères. Si j'avais par moi-même quelque fortune, je ne vous importunerais pas. Rien ne m'est plus désagréable, je vous assure, que ces détails d'argent dans lesquels une rigoureuse nécessité me force d'entrer, bien malgré moi. Agréez, monsieur le comte, etc.